Ce fut à l'école déjà qu'on fit de nous des concurrentes. On se regardait chien et chat, on détestait les redoublantes. Souffre, douleur ou bien faillotte, on se poussait toujours plus haut. On s'arrachait les bonnes notes, on pleurait devant le tableau. On aurait pu rester Frangine, ça nous aurait gagné du temps. Au coude à coude, j'imagine qu'il n'aurait pas fallu longtemps pour qu'on soit toutes aussi bonnes, malgré les pionnes et les parents. Ensuite, en face des garçons, commença la grande offensive. On se fabriquait des façons, des rendez-vous sur l'autre rive. Et grande bringue ou blanche neige, c'était à qui amènerait tous les boutonneux du collège à l'accompagner sur le quai. On aurait pu rester Frangine, ça nous aurait gagné du temps. Bras dessus, dessous, j'imagine qu'on aurait de ces débutants avant que la vie les assomme, pu faire des hommes, pas des enfants. Un peu plus tard, c'est la beauté qu'on nous érigea en barrière. On se retrouvait insultés si on n'était pas la première. Nos amitiés faisaient sourire, fallait nous crêper le chignon. Et tout ce qu'on pouvait se dire n'était que fadaise ou chiffon. On aurait pu rester Frangine, ça nous aurait gagné du temps. Main sur l'épaule, j'imagine qu'on aurait pu, se regardant, voir qu'on était toutes assez belles, et même celles qui ont pareil dans nos métiers. On nous oppose et on nous monte en épingle pour mieux montrer qu'on se trouve en dehors du compte. Pour peu qu'on dépasse la tête, on est toujours une exception, chacune sur notre planète. Ce qu'on a pu tourner en rond, si on se retrouvait Frangine, on n'aurait pas perdu son temps. Unissant nos voix, j'imagine qu'on en dirait 20 fois autant et qu'on ferait changer les choses. Et je suppose aussi les gens, et qu'on ferait changer les choses. Allez, on ose, il est grand temps.
Allez, on ose, il est grand temps. Vous êtes sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu ni maître et sans publicité, mais avec une carte d'auditeur et d'auditrice que vous pouvez aller acheter à la librairie Publico au 145 rue Amelot, les métros République Oberkamp et Filles du Calvaire. Et comme chaque mardi de 12h30 à 14h30, vous êtes à l'écoute de l'émission Remue Ménage Féministe, une émission qui se propose de faire découvrir le foisonnement et la richesse du féminisme. Et nous sommes aujourd'hui le mardi 16 juillet 2024. Vous pouvez, je vous le dis dès à présent, mais je vous le dis à chaque émission, vous pouvez réécouter nos émissions en allant sur le podcast de Radio Libertaire, le Mixcloud de Remue Ménage Féministe et le Blogspot de Radio de Remue Ménage Féministe et celui des Saxifragettes. Alors, au programme de notre émission de ce mardi 16 juillet, eh bien, nous allons continuer à vous faire découvrir ou redécouvrir le foisonnement et la richesse du féminisme, car nous sommes allés faire un petit tour dans notre médiathèque, la médiathèque de Remue Ménage Féministe, et nous avons sorti quelques ouvrages. Michel Perrault, Aurore Evin, Annabelle Crémer-Lecointre. Vous allez avoir beaucoup, beaucoup plus de détails et d'informations incessamment sous peu. Et nous allons commencer par évoquer Michel Perrault. Alors, dans un premier temps, Michel Perrault, nous allons l'évoquer pour un tout petit livre, tout petit par la taille, mais un livre au contenu particulièrement surprenant. Son titre, Projet d'une loi portant défense d'apprendre à lire aux femmes. Je répète, Projet d'une loi portant défense d'apprendre à lire aux femmes. Et ce livre, enfin, en tout cas ce projet, il est né dans la tête d'un certain Sylvain Maréchal. Et vous pouvez trouver ce livre qui est paru aux éditions Mille et Une Nuits. Et c'est Michel Perrault qui a établi cette édition en 2007. Et on doit aussi à Michel Perrault les notes et la postface que vous trouverez dans cet ouvrage. Alors, déjà, on se demande ce que tout cela peut vouloir dire, défense d'apprendre à lire aux femmes. Eh bien, quelques mots que nous donne la quatrième de couverture. Au lendemain de la Révolution, on aime à imaginer des lois pour toutes choses, ce qui engendre parfois d'étonnantes mais révélatrices aberrations. En 1801, un honnête homme, avocat de formation, libre penseur et progressiste, fait paraître son projet d'une loi portant défense d'apprendre à lire aux femmes. Son brûlot, collection des arguments les plus éculés contre l'instruction des filles, ravive la querelle des sexes. Le temps de la citoyenne n'est pas encore venu. Donc, je vous rappelle, c'est en 1801 que Sylvain Maréchal écrit ce projet d'une loi portant défense d'apprendre à lire aux femmes. Alors, je vais vous en lire quelques extraits. Nous allons commencer par son adresse au chef de maison, au père de famille et au mari. Qui plus que vous doit sentir la nécessité et l'urgence de la loi dont le projet vous est adressé et soumis à votre prudence. Les bons ménages deviennent rares, et c'est vous, les premiers, qui portez la peine des préjugés et des abus qui ont envahi l'éducation des femmes. Vous tiendrons donc la main à ce règlement. Il vous intéresse plus peut-être encore que les femmes qui en sont l'objet principal. Les puissances mâles et femelles du bas empire de la littérature vont s'agiter à la promulgation de la présente loi. On prononcera « malédiction » sur le législateur indiscret et téméraire. Déjà en butte aux prêtres, comment n'a-t-il pas craint de leur donner les femmes de lettres pour auxiliaires ? La coalition des femmes de lettres et des prêtres, c'est une rude chose. Mais que pourra-t-elle si les bons esprits, si les têtes saines opposent le rigide et placent cette loi sous le bouclier de la raison ? Les bonnes mères de famille, les excellentes femmes de ménage, les épouses sensibles, les jeunes filles naïves et toutes naturelles, vengées enfin du méprisant abandon où on les reléguait, sauront peut-être quelque gré aux rédacteurs de cette loi et rendront justice à la pureté de ses intentions. Nous ne sommes point dupes, s'écrieront quelques flatteurs de femmes. Nous ne sommes point dupes des ménagements qu'on prend ici pour faire entendre que les deux sexes ne doivent pas être rangés précisément sur la même ligne, dans la grande échelle des êtres, et qu'il faut placer un sexe au-dessous de l'autre. Il faut répondre, ce n'est point là du tout la pensée du législateur des femmes. Dans le plan qu'il s'est tracé, de la nature, il n'y a pas un seul être inférieur à un autre. Toutes les productions sorties de ses mains sont autant de chefs-d'œuvre. Et parmi une infinité de chefs-d'œuvre, il serait absurde d'établir ou de supposer des préférences. Les deux sexes sont parfaitement égaux, c'est-à-dire aussi parfaits l'un que l'autre dans ce qui les constitue. Rien dans la nature n'est comparable à un bel homme qu'une belle femme. Ajoutons pour finir, il n'y a rien de plus laid au monde qu'un homme singeant la femme, si ce n'est une femme singeant l'homme. Ce projet de loi ne pouvait paraître plus à propos qu'au moment où l'on s'occupe de l'organisation définitive des études. Vous remarquerez que dans son rapport si estimable sur l'instruction publique, Chaptal garde le plus profond silence touchant les femmes. Il ne leur suppose aucunement la nécessité d'apprendre à lire, à écrire, etc. Partagerait-il l'opinion que leur esprit naturel n'a pas besoin de culture? Nota. Celles d'entre les femmes qui prendront à cœur ce projet de loi pourront se permettre les réclamations et sont invitées à les adresser au rédacteur. Il s'empressera d'y faire droit, autant que possible. Mais il prévient qu'il ne répondra aux injures que par son silence accoutumé. Des injures ne sont point des raisons. Et maintenant, il s'adresse aux femmes. Aux femmes, si l'on vous interdit l'arbre de la science, conservez sans regret votre douce ignorance, gardienne des vertus et mère des plaisirs. À des jeux innocents, consacrez vos loisirs. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce petit livre? Eh bien, on trouve d'abord les motifs de la loi. Les motifs de la loi avec 113 considérants. Je vais vous en lire quelques-uns, surtout pas les 113. Considérant qu'apprendre à lire aux femmes est un hors-d'œuvre nuisible à leur éducation naturelle, c'est un luxe dont l'effet fut presque toujours l'altération et la ruine des mœurs. Je continue. Considérant que l'intention de la bonne et sage nature a été que les femmes, exclusivement occupées des soins domestiques, s'honoraient de tenir dans leurs mains non pas un livre ou une plume, mais bien une quenouille ou un fuseau. Considérant combien une femme qui ne sait pas lire est réservée dans ses propos, pudibonde dans ses manières, parcimonieuse en parole, timide et modeste hors de chez elle, égale et indulgente. Combien, au contraire, celle qui sait lire et écrire a de penchant à la médisance, à l'amour-propre, au dédain de tous ceux et de toutes celles qui en savent un peu moins. Considérant que la nature elle-même, en pourvoyant les femmes d'une prodigieuse aptitude à parler, semble avoir voulu leur épargner le soin d'apprendre à lire et à écrire. Considérant que chaque sexe a son rôle, celui de l'homme étant d'instruire et de protéger, suppose une organisation forte dans toutes les parties. Le rôle de la femme doit être bien moins prononcé. Douceur et sensibilité en sont les deux principaux caractères. Tous ses droits, tous ses devoirs, tous ses talents se bornent là. Et ce lot vaut peut-être bien l'autre. Je continue de tourner les pages. Considérons que pour l'ordinaire, une femme perd de ses grâces et même de ses mœurs à mesure qu'elle gagne en savoir et en talent. Pour peu qu'elle sache lire et écrire, une femme se croit émancipée et hors de la tutelle où la nature et la société l'ont mise pour son propre intérêt. Considérant que la place d'une femme n'est point sur les bancs d'une école, encore moins dans une chaire de théologie, de physique ou de droit, comme il s'est vu plus d'une fois à Bologne en Italie. Considérant que les femmes ayant reçu une organisation physique plus frêle et un caractère moral moins décidé que les hommes, l'étude des lettres n'est pas un puissant moyen de donner de la force et de l'énergie. De l'aveu des philosophes eux-mêmes, les lettres énervent, quand elles ne corrompent point. Fénelon a dit, les femmes ont, d'ordinaire, l'esprit encore plus faible que les hommes. Eh bien, c'était quelques-uns des considérants, et il y en a comme ça, 113. Donc les motifs de la loi, et après les motifs de la loi, eh bien, Sylvain Maréchal, qui a écrit ce projet de loi, je le rappelle, en 1801, défense d'apprendre à lire aux femmes, donne maintenant le texte de la loi par ses articles. Alors les articles, eh bien, il y en a 82. Je vais commencer à en lire quelques-uns. Premier article, la raison. Donc, dans les considérants, on est dans la nature des femmes. Eh bien, dans le texte de la loi et dans les articles, en conséquence, la raison veut, dût-elle passer pour vandale, que les femmes, filles, mariées ou veuves, ne mettent jamais le nez dans un livre, jamais la main à la plume. Deuxième article. La raison veut, à l'homme, l'épée et la plume, à la femme, l'aiguille et le fuseau, à l'homme, la massue d'Hercule, à la femme, la quenouille d'Ophale, à l'homme, les productions du génie, à la femme, les sentiments du cœur. La raison veut que chaque sexe soit à sa place et s'y tienne. Les choses vont mal quand les deux sexes empiètent l'un sur l'autre. La lune et le soleil ne luisent point ensemble. La raison ne veut pas plus que la langue française qu'une femme soit auteur. Ce titre, sous toutes ses acceptions, est le propre de l'homme seul. La raison veut que les sexes diffèrent de talent, comme d'habit. Il est aussi révoltant et scandaleux de voir un homme coudre que de voir une femme écrire, de voir un homme tresser des cheveux que de voir une femme tourner des phrases. La raison maintient ce vieux proverbe « Les paroles sont des femelles, les écrits sont des mâles ». En ce qu'il semble faire les parts et assigner à chacun des deux sexes le talent qui lui convient. Nota bene, toute la sagesse des nations est dans leur proverbe. Je poursuis encore. Deux articles. La raison veut que l'on dispense les femmes d'apprendre à lire, à écrire, à imprimer, à graver, à scander, à solfier, à peindre, etc. Quand elles savent un peu de tout cela, c'est trop ordinairement aux dépens de la science du ménage. La raison veut donc que la plume à écrire et le pinceau, le crayon et le burin soient interdits à la main des femmes, l'aiguille à coudre et le fuseau à la main des hommes. Je vous ai lu les 8 premiers articles. Il vous en reste encore un certain nombre, puisqu'il y a 82 articles. Parce que j'espère que vous allez être intéressés, et hommes et femmes, et que vous allez aller acheter projet d'une loi portant défense d'apprendre à lire aux femmes. Sylvain Maréchal, en 1801. Alors maintenant, je vais laisser la parole, par le biais de ma voix, à Michel Perrault, qui a écrit la postface, qu'elle a appelée « Les paradoxes du berger Sylvain ». À première vue, ce texte paraît si caricatural à nos yeux d'aujourd'hui que certains ont cru à un canular, voire à un pamphlet. Excusez-moi. Vive critique du rapport sur l'éducation présenté par Chaptal, où il n'est absolument jamais question de l'éducation des femmes, lit-on dans la notice d'un catalogue de librairie. Comment un libre penseur, un progressiste, qui a écrit le Manifeste des égaux, pouvait-il écrire ce brûlot, ramassis, au demeurant savamment agencé, des arguments les plus éculés contre l'instruction des filles, présenté comme le péril en la demeure, grave danger menaçant l'équilibre de la famille et donc de la société. Tel n'est pas, cependant, l'avis du principal biographe de Sylvain Maréchal, Maurice Domanger, en 1950, et de sa plus récente exégète, Geneviève Fraisse, que vous connaissez. L'un et l'autre n'ont aucune hésitation sur le premier degré du texte et l'intention de l'auteur, qui dit ce qu'il pense, et pense très probablement ce qu'il dit. Et à l'examen, il n'y a guère de raison de mettre en doute leurs analyses. C'est ainsi en tout cas que l'ont entendu ses contemporains, qui prennent parti pour ou contre lui dans une querelle des sexes récurrente depuis le XVIIe siècle et ranimée autour de 1800 par les débats sur l'instruction. Certains louent et d'autres, plus nombreux, le critiquent. Madame Bernier surenchérit. La destination des femmes est de faire le bonheur domestique de l'homme et il est nécessaire, dès l'enfance, de leur faire connaître combien elles sont inférieures aux hommes. En revanche, l'exte conventionnel Pérard prend parti pour la supériorité de la femme au-dessus de l'homme. De manière plus incisive, mesdames Clément Emery et Gacon Dufour s'insurgent. La première, madame Clément Emery, femme exceptionnelle, journaliste et imprimeur, dans un opuscule intitulé « Les femmes vengées de la sottise d'un philosophe d'un jour », s'élève, entre guillemets, contre les ridicules innovations du sexe masculin, fermons les guillemets, et somme Sylvain Maréchal de se rétracter sous peine d'être taxé de fou par les deux sexes. La seconde, madame Gacon Dufour, amie très proche, admiratrice et future biographe de Sylvain, elle-même auteure en 1787 d'un mémoire pour le sexe féminin contre le sexe masculin, s'étonne plus encore. Dans une brochure signée par une femme qui ne se pique pas d'être femme de lettres, puisqu'elle l'était, elle attribue à la vanité la prise de position de Maréchal. Entre guillemets, l'envie peut être tolérée dans un petit esprit, mais le hardi penseur de son siècle n'a pas besoin d'emprunter ce vice pour faire briller son génie. Le rossignol n'est pas jaloux du gazouillement de la fauvette. Eh bien, elle aussi, elle expédie Sylvain à l'asile. Entre guillemets, attendu que l'auteur d'un pareil projet de loi ne peut avoir été inspiré que par la folie, il sera envoyé au comité de santé, où il sera traité aux frais de ses partisans, jusqu'à ce que la raison lui soit revenue. Je poursuis. Le camp de l'instruction des femmes semblait avoir progressé. Il comptait dans ses rangs Constance Pipelet, princesse de Salm, la citoyenne Boer, Thérémin Beyerlé, excusez-moi, et surtout Le Gouvet. Pourtant, le silence de Chaptal, ministre de l'Intérieur, dans son rapport sur l'instruction publique, où il ne parle que de la formation professionnelle des sages-femmes, donnait en quelque sorte satisfaction à Maréchal, plus qu'à ses détracteurs. L'éducation des filles était plus que jamais laissée dans l'ombre du privé, confiée aux mères et bientôt au couvent renaissant, ce qui n'aurait guère séduit l'auteur très anticlérical du Dictionnaire des athées, parce qu'effectivement, Sylvain Maréchal a également écrit le Dictionnaire des athées. Je poursuis un peu plus loin. Le projet de 1801 s'inscrit dans la continuité d'une logique, au demeurant partagée par beaucoup. Il repose sur une philosophie de la vie que l'auteur met en forme avec une volonté pédagogique, non dépourvue de verve, mais redondante dans ses ressassements. Rigoureusement complémentaire. Et si il était inspiré par Jean-Jacques Rousseau, Sylvain Maréchal. Rigoureusement complémentaire, nature et raison marchent ensemble. La nature dit, la raison veut. 113 considérants pour la première, 82 articles pour la seconde, nourris de références d'une époustouflante érudition. des références empruntées principalement à l'Antiquité gréco-romaine et au XVIIe siècle, comme autant de preuves des malheurs qu'entraîne l'instruction des femmes savantes et, entre guillemets, le bel esprit, constamment opposé au bon esprit. Chemin faisant, Maréchal trace une galerie foisonnante de portraits de femmes créatrices, plus ou moins oubliées, et à contrario, démontre l'intensité de leur participation à la construction du savoir. Présence des femmes dans les sciences et les lettres. Tel pourrait être le titre paradoxal de cet opuscule, qui ferait douter de son énoncé. Que veut-il prouver ? Comment refuser la lecture aux femmes ? Elles possèdent depuis longtemps cet art dont elles se sont emparées et s'y opposées, c'est lutter contre le Pacifique. Sylvain Maréchal s'est-il convaincu lui-même de l'absurdité de sa proposition ? Nous ne le saurons jamais. Nous ignorons sa réponse à Madame Emery et à la chère Madame Gacon Dufour, son interlocutrice privilégiée. Publié à l'automne 1801, son opuscule eut du succès, suscita la polémique et connut par la suite plusieurs rééditions. Ce fut l'un de ses tout derniers textes. Il mourut en 1803, à la campagne, dans sa maison de Montrouge, il vivait avec la pieuse Zoé, sa femme très aimée, entre ses livres, ses amis, ses fleurs et ses chats. Aimable épicurien, assez habile pour traverser la Révolution sans trop d'anicroche, pourfendant les rois, les prêtres et les privilèges, rêvant d'un monde futur qui serait un retour à l'âge d'or d'une société pastorale et patriarcale, paisible, frugale et poétique, celui des femmes ignorantes et vertueuses, dont l'époux serait, entre guillemets, le seul livre, la quenouille et le fuseau, les seules plumes, la maison, l'unique paradis, et l'amour de la seule pensée. Et c'est signé Michel Perrault. Et je voulais juste vous préciser que Sylvain Maréchal était né à Paris le 15 août 1750. Pour ça qu'on parle de la Révolution. Et je ne retrouve plus sa date de décès. Donc il est né en 1750 et il décède en 1803. Après une longue maladie. Voilà, c'était quelques extraits de ce livre, projet d'une loi portant défense d'apprendre à lire aux femmes. Et nous allons clore ce premier chapitre de l'émission d'aujourd'hui par une chanson en fémage à Olympe de Gouges. Les Choraleuses de Toulouse.
Olympe naturel, fille de Pompignan, Olympe universelle et fille de Montauban. Olympe naturel, fille de Pompignan, Olympe universelle et fille de Montauban. Olympe, tu as 200 ans et toujours pas démodé. Ils sont nombreux tes prétendants à récupérer tes idées. Pourvu que de notre vivant, on les voit se réaliser. Olympe au naturel, fille de Pompignan, Olympe universelle et fille de Montauban. Olympe au naturel, fille de Pompignan, Olympe universelle et fille de Montauban. Tu luttes contre les vents, l'éventail des idées, préconçues ou éventées, et sur que tu as gêné les nantis, les négriers, tes voisins et le clergé. Olympe naturelle, fille de Pompignan, fille de Montauban, Olympe naturel, fille de Pompignan, Olympe universelle et fille de Montauban. Olympe à droite, Olympe à gauche, Olympe politisé, Olympe au centre de l'idée qu'il était temps désormais d'accorder même au féminin les droits du citoyen. Olympe au naturel, fille de Pompignan, Olympe universelle et fille de Montauban. Olympe au naturel, fille de Pompignan, Olympe universelle et fille de Montauban. Olympe patiente, Olympe pucine, Olympe pardonnée, Olympe pétueuse, Olympe trépide. Ta tête ils l'ont coupée, Olympe, Olympe impératrice de toute liberté. Olympe naturelle, fille naturelle, Olympe universelle, Olympe universelle. Olympe naturelle, fille de Pompignan, Olympe universelle, Olympe de Montauban.
Olympe de Gouges par les choraleuses chorales de Toulouse. Et vous pouvez trouver la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, le texte intégral, aussi aux éditions Mille et Une Nuits, comme la loi portant défense d'apprendre à lire aux femmes de Sylvain Maréchal. 2,60 € pour la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, Olympe de Gouges. 3 € pour le projet d'une loi portant défense d'apprendre à lire aux femmes. Et nous poursuivons maintenant l'émission, encore un peu, avec Michel Perrault. Michel Perrault, qui a été interviewé par le magazine 50-50, le 22 avril dernier, pour parler de ses positions par rapport aux femmes. Et on connaît beaucoup et on connaît bien Michel Perrault, qui est une femme absolument extraordinaire. Le fait que les femmes soient sorties de l'ombre est une conséquence du mouvement de libération des femmes. Alors c'est donc dans le magazine 50-50 que vous connaissez, un magazine sur l'égalité femmes-hommes. Quelques mots sur ce magazine qui donne la parole aux expertes des questions de femmes et de genre dans les secteurs politiques, économiques, culturels, sociaux, philosophie, sportifs. Celles et ceux que l'on entend, ne lit, ne voit que si rarement dans l'ensemble des médias ont toute leur place sur 50-50 magazines. Année après année, le constat est le même, l'invisibilité des femmes dans les médias perdure. Ils ne rendent compte ni de leur lutte, ni de leur centre d'intérêt, ni de leur victoire. En un mot, ils ne rendent pas compte de leur réalité. Alors 50-50 magazine donne la parole aux experts et aux expertes, aux expertes et aux experts, des questions femmes et genre, comme je l'ai dit. Et l'interview de Michel Perrault commence comme ça. Le fait que les femmes soient sorties de l'ombre est une conséquence du mouvement de libération des femmes. Depuis plus de 50 ans, Michel Perrault a largement contribué à faire émerger les femmes dans l'histoire. Elle a, dans son travail, mis en lumière plus particulièrement les différences de classe et de sexe qui sont partout au fondement des inégalités économiques et sociales, mais qui sont modulées, selon les époques et les pays, par d'autres discriminations. De nombreux sujets d'études s'offrent aux nouvelles générations de chercheuses féministes auxquelles Michel Perrault a contribué à ouvrir la voie. Eh bien, nous allons écouter Michel Perrault. Nous sommes aujourd'hui, le mardi 7 mai 2024, au programme une interview que Michel Perrault a donnée à 50-50 Magazine, intitulée « Le fait que les femmes soient sorties de l'ombre est une conséquence du mouvement de libération des femmes ». De nombreux sujets d'études s'offrent aux nouvelles générations de chercheuses féministes auxquelles Michel Perrot a contribué à ouvrir la voie.
Les femmes ont tant de frivolité, de frivolité. Demande à Gisèle et à Isabelle. Elles sont nées pour balayer et faire la vaisselle, vider la poubelle. Les femmes ont tant d'habileté, d'habileté. Demande à Hélène et puis à Hélène. Demande à Gisèle. Dès l'enfance, c'est dans la souffrance. Les femmes ont tant de générosité, demande à Christine et à Micheline, demande à Hélène et puis à Guylaine, demande à Gisèle et à Isabelle. Elles sont faites pour travailler, et faire chacune deux journées dans une. D'agilité, demande à Colette et Antoinette, demande à Christine et à Micheline, demande à Hélène et puis à Guylaine, demande à Gisèle et à Isabelle. Elles sont faites pour lutter, quand c'est leur colère qui remue la terre. Les femmes aussi savent lutter, demande à Rosa et à Angela, demande à Colette et Antoinette, demande à Christine et à Micheline, demande à Hélène, demande à Gisèle et à Isabelle, demande à Rosette et puis à Colette, demande à Guylaine et puis à Josette, demande à Christine et à Micheline.
Qu'est-ce qui vous a donné le goût de l'histoire ?
Plusieurs choses. Très curieusement peut-être, dans le cours religieux où j'étais, il y a eu des professeurs qui étaient assez bons, qui venaient de l'Institut catholique, j'étais à Paris, et qui un jour, j'étais en terminale je crois, on parlait de la découverte des manuscrits de la Mer Morte. Et pour moi, ça a été quelque chose de tout à fait fascinant. On trouve des objets très anciens, des restes très anciens, et à partir de là, on développe une recherche. En l'occurrence, c'était la traduction de textes de la Bible, hébreu, grec, araméen. Voilà. Et le fait qu'il y avait ces trois langues permettait de comprendre quelque chose. Ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup frappé. Enfin, c'est pas pour ça, quand même, que j'ai fait de l'histoire. Alors, il y a des raisons un peu négatives et des raisons positives. Des raisons négatives, j'aurais bien fait ma médecine, mais mon professeur de sciences nat, que j'avais consulté, m'avait dit, vous savez, vous n'êtes pas assez bonne en mathématiques. Et vous aurez peut-être des problèmes. Donc j'avais un petit peu renoncé à ça. Et les aspects positifs, c'est que je sortais de la guerre, on était en 47 au moment où j'avais à choisir, et que La guerre, c'était la guerre. Même si dans ma famille, je n'ai pas eu de grands drames, etc., c'était quand même une période fort sombre, où mes parents n'allaient pas bien, où rien n'allait bien, finalement. Et par conséquent, ça m'avait beaucoup interrogé, beaucoup passionné aussi, et je me suis dit que peut-être l'histoire, c'était un moyen de comprendre ce qu'on venait de vivre. Voilà les diverses raisons pour lesquelles j'ai fait de l'histoire.
Comment êtes-vous arrivé à vous pencher sur le sort des femmes ouvrières ?
J'ai commencé par l'histoire des femmes elles-mêmes, mais leur invisibilité, pourquoi est-ce qu'on n'en parlait pas ? C'est ça qui m'a beaucoup attiré. Et les femmes ouvrières, parce que avant de travailler sur les femmes, j'avais travaillé sur les ouvriers. En réalité, j'avais fait ma thèse sur les ouvriers en grève sous la Troisième République, une période un peu plus courte d'ailleurs. Et j'avais évidemment rencontré des femmes en grève, mais peu. Et ça m'avait quand même surprise. Hein. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas davantage ? Évidemment, les raisons sont simples. C'est d'abord qu'elles sont beaucoup moins nombreuses, et puis ensuite qu'elles ont une moindre propension à la grève, et on les y pousse pas, du tout. Par conséquent, il y avait un sujet, comprendre les femmes ouvrières, leur place, ça posait déjà ce qu'on appellera plus tard la question du genre, la question de la différence des sexes. Et puis, pendant ces recherches, où il n'y avait pas tellement de témoignages de femmes, justement, j'en avais trouvé un peu par hasard, sur la femme sur laquelle je travaillerai bien plus tard, c'était le témoignage de Lucie Beau. Alors Lucie Beau, c'est une ouvrière du textile de Visil, en Isère, et elle avait été, dans les années 1905-1906, une meneuse de grève. Elle avait fondé un syndicat, elle était une meneuse de grève. Je connaissais mal son histoire, pour cause, puisque je la découvrais, mais elle avait publié, on avait publié d'elle, dans une revue socialiste d'ailleurs, du début du XXe siècle, un très beau texte autobiographique, ce qui est très rare, qui commençait par « Je suis entrée au travail à l'âge de 12 ans chez messieurs Duplan Frères ». Et après, elle racontait un petit peu comment se passait le travail. C'était un très beau texte, et ça, je l'avais un petit peu remisé de côté. Et plus tard, bien plus tard, quand des anciennes élèves à moi qui dirigeaient une collection qu'elles voulaient appeler « Nos héroïnes » chez Grasset, elles m'avaient demandé d'écrire pour elles. Et j'avais proposé différentes personnes, mais elles voulaient des inconnus. Alors j'ai repensé à Lucie Beau. Et je leur ai dit, écoutez, peut-être cette femme. Oh, mais oui, voilà. Elles m'ont dit ça, c'est très intéressant. Je leur ai dit, d'accord, mais j'ai très peu de choses sur elle. Alors elles m'ont dit très gentiment, cherchez. Ce que j'ai fait. Alors, Lucie Beau a donné naissance, par conséquent, à un livre qui s'appelle « Mélancolie ouvrière ». Qui est paru en 2011 ou 2012, quelque chose comme ça. Et Gérard Mordilla a fait un film à partir de ce livre qui porte le même titre, Mélancolie ouvrière. Voilà. Et avec Virginie Ledoyen incarnant le rôle de Lucie Beau. C'est un parcours assez intéressant de ce point de vue. Et je dois dire que les gens de Visil, avec lesquels je suis rentré en contact, évidemment, pour travailler sur Lucie Beau, sont très très contents de ça.
Quelles sont les principales avancées qui ont contribué à faire ressortir les femmes dans l'histoire ?
Pourquoi finalement est-ce que les femmes sont sorties de l'ombre ? Je dirais que c'est une conséquence, si on simplifie un peu peut-être, du mouvement de libération des femmes. Le mouvement de libération des femmes, c'est les années 70. À ce moment-là, moi, je soutiens ma thèse en 71, je suis professeur à Jussieu, et j'allais dire libéré, c'est pas très gentil de dire ça, mais de mon travail de thèse, en tout cas, sur les grèves, et je me dis, qu'est-ce que je raconte sur les femmes, au fond ? Rien. Hein. Et comme j'étais très engagée comme militante dans le mouvement de libération des femmes, je me suis posé la question, je me suis dit, mais maintenant, ce que je pourrais faire de mieux, c'est ça. Hein. C'est en parler. Mais en parler comment? Hein. Et du coup, avec, je propose à deux collègues, un petit peu plus jeunes que moi d'ailleurs, Fabienne Bock, qui est décédée il y a peu de temps, et Pauline Schmitt, qui était une spécialiste d'histoire ancienne, je leur dis, voilà, on pourrait peut-être lancer un cours sur les femmes. Et on a lancé un cours qui portait comme titre, j'avais proposé, « Les femmes ont-elles une histoire ?» On n'en était même pas absolument sûr. Donc, ça vient comme ça. Et l'initiative que j'ai prise, bien reçue, très bien reçue même, d'autres historiennes le faisaient. Deux exemples les plus importants, Roland Trempé, qui était une de mes amies et qui était à Toulouse, elle aussi, elle avait soutenu une thèse sur les ouvriers, pour les mineurs de Carmaux, et Yvonne Knibieler, qui, elle, était à Aix-Marseille, et qui s'est surtout spécialisée dans l'histoire de la maternité. Elle a publié un très beau livre qui s'appelle « Histoire des mères ». Voilà. Donc, les années 70-75, c'est à ce moment-là que émerge l'histoire des femmes, à cause d'historiennes qui ont décidé de le faire. Voilà. Il y a eu des pionnières. Une surtout, hein, en France, Edith Thomas. Edith Thomas était chartiste, elle n'a jamais enseigné à l'université, elle était chartiste, mais elle a beaucoup publié. Notamment, elle a publié sur les femmes de 1848, sur Louise Michel, sur les communardes, différents, peut-être une demi-douzaine de livres, sur le 19e essentiellement. Et voilà, alors ça c'est un très, très bel exemple d'une femme pionnière, mais elle est à peu près unique, vraiment très très peu de choses. Enfin, si, on pourrait quand même en citer encore d'autres. Marguerite Thibert, par exemple. Marguerite Thibert, qui était une haute fonctionnaire. Elle était fonctionnaire au Bureau international du travail. Et en dehors de son engagement, enfin de son travail salarié dans le BIT, elle a publié quelques livres, un ou deux livres, sur plutôt socialisme et féminisme, quelque chose comme ça. Donc, on peut en effet citer quelques exemples de femmes qui ont publié sur les femmes. Mais à l'université, il n'y avait rien du tout. Alors là, absolument rien. Ce n'était pas une question qui les intéressait beaucoup. Non, on ne faisait pas ça. On écrivait l'histoire des hommes, plutôt, hein, des règnes, des rois, par exemple, les grands travaux de Marc Bloch sur la féodalité, des choses comme ça. Lucien Febvre, peut-être. Lucien Febvre et Marc Bloch sont deux historiens qui ont renouvelé l'histoire, c'est ce qu'on appelle l'école des annales. Et ben, c'est vrai que Lucien Febvre a quand même publié un livre sur Marguerite de Navarre. Donc, il y a quand même des hommes qui commençaient à s'y intéresser un peu. Mais c'était très marginal.
Parlez-nous de votre parcours féministe. Quelles sont les féministes qui vous ont le plus marqué?
Alors, mon parcours féministe, étais-je spécialement féministe? Oui, dans la mesure, si féminisme ça veut dire quête de l'égalité entre les sexes, je l'étais, absolument. Moi, je voulais mes droits, je voulais ce qu'avaient les hommes, absolument. Mais ce qui a peut-être retardé ma conscience féministe, c'est que j'ai pas eu d'obstacles. J'ai pas rencontré de grands obstacles. Pourquoi ? Parce que mes parents, moi j'étais fille unique, bon, mes parents me soutenaient, non seulement me soutenaient, mais me poussaient. Hein. Enfin, c'était même une évidence. C'était absolument une évidence pour mes parents que je devais poursuivre des études supérieures, que je devais travailler, gagner ma vie. C'était absolument évident. Hein. Même pas, on n'en discutait même pas. Mon père, après le bac, me dit, bah, maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Voilà. Hein. Et d'ailleurs, mon père était féministe, ça l'aurait fait rire qu'on l'appelle homme féministe, je crois que ça l'aurait fait beaucoup rire. Mais il était. Pour lui, il n'y avait pas de différence. Hein. Et il me disait, mais il faut faire du sport, il faut conduire une voiture, il faut faire ce que tu veux. Voilà, fais ce que tu veux. Et d'ailleurs, mon père aurait beaucoup aimé que je fasse ma médecine. Lui-même n'avait pas pu faire sa médecine, ce qu'il aurait voulu faire, parce qu'il y a eu la guerre 14-18, et il a été sur le front pendant 4 ans. Et quand il est rentré de la guerre, son père, à lui, est mort de la grippe espagnole. C'est comme ça que les guerres traversent les vies, les familles, etc. Donc, sa mère lui avait dit, écoute, moi, je peux pas te payer de longues études de médecine, c'est pas possible. Donc, il a travaillé, il était dans le commerce. Ma famille est plutôt d'origine agricole. Hein, et assez tôt, probablement des paysans, mais il y a une branche qui s'en va vers le commerce. Commerce des bestiaux. Mon père était dans le commerce du cuir, voilà, alors donc c'était un petit peu comme ça, mais ça lui plaisait pas beaucoup, ça l'intéressait pas. Il a fait pour gagner sa vie, mais il aurait voulu faire médecine. Alors, pour revenir à la question posée, je n'ai pas eu d'obstacle. Mon père me poussait, et ma mère aussi. Ma mère, elle était d'une famille... Mon grand-père était ingénieur de la ville de Paris. Et ma mère, elle avait été au lycée Fénelon, qui avait été un des premiers lycées de filles fondés à la fin du 19e. Elle était très, très contente d'avoir été à Fénelon, et elle aurait bien continué en dessin. Elle était très, très bonne en dessin. Elle a fait une école de dessin... qui d'ailleurs était rue Madame. C'est assez drôle parce que c'est dans la même rue que là où j'habite maintenant. Et depuis longtemps d'ailleurs. Mais elle aussi, elle a eu des problèmes, sa mère est morte. Et comme elle avait son père et deux frères, un frère aîné, un frère plus jeune, le frère aîné se débrouillait très bien, mais le frère plus jeune, il fallait qu'elle s'en occupe. Il était encore au lycée. Donc elle a abandonné ses projets. Elle a été une femme, les femmes, elles remplacent, elles font, etc. Donc c'est dire que ma mère ne rêvait pas pour moi d'une condition comme elle. Elle me poussait aussi, elle me disait, mais oui, sois indépendante, aie un métier, voilà. Donc, c'est, pour ces raisons-là, j'ai pas eu de difficulté pour faire ce que je voulais. Et quand j'ai choisi d'aller à la Sorbonne, de faire de l'histoire, tout ça, et à la Sorbonne des années, vous voyez, 47-51, c'est très exactement mes années d'études. Les filles étaient minoritaires encore, mais quand même, on était bien, je sais pas, en histoire 25%, à peu près. J'ai pas des statistiques très, très fiables, c'est un petit peu l'impression que j'avais. On était minoritaires, mais les garçons qu'on rencontrait, il y en avait toutes sortes. Hein. Il y en avait que, moi, qui m'intéressaient pas du tout, qui étaient beaucoup trop conventionnels. Mais si on voulait trouver des garçons ouverts, camarades, sympathiques, on en trouvait. Hein. Il y avait pas de problème. Et les professeurs, ils accueillaient les filles comme les garçons. Et moi, je sais qu'il y avait un grand professeur qui s'appelait Ernest Labrousse, qui était très moderne, parce que c'est lui qui a introduit à la Sorbonne l'histoire économique et sociale, qui n'existait pas avant. Hein, c'était donc vraiment un pionnier dans son domaine. Moi, ça m'a beaucoup intéressé, je suivis ses cours, et quand il s'est agi de choisir le mémoire de maîtrise, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire un sujet de recherche qui prenait une année, je suis allé le trouver, et j'ai fait affaire avec lui, en quelque sorte, et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur les grèves. Et lui, il était très content de ce que j'avais fait. C'est lui qui m'a dit, mais mademoiselle, faut continuer. Voilà, il faut continuer. Passez l'agrégation, parce que autrement vous n'aurez pas de travail. Et puis, après, vous revenez me voir. Et puis, vous faites des recherches. Donc, je ne peux pas dire que j'ai eu des problèmes. Donc, mon féminisme était là. J'étais quand même lectrice de Simone de Beauvoir. Hein. Le deuxième sexe est paru en 1949. J'étais étudiante à ce moment-là, ça tombait vraiment bien, et j'ai commencé à lire, mais d'ailleurs je ne l'ai pas fini tout de suite, parce que j'avais des concours à préparer, donc je l'ai remisé un petit peu, je l'ai repris 3-4 ans plus tard. Simone de Beauvoir comme modèle, C'était une femme merveilleuse. Elle était belle, elle était absolument indépendante, elle conduisait sa voiture, elle voyageait, elle gagnait sa vie, elle avait ce qu'elle appelait les amours essentiels et les amours secondaires. Elle publiait surtout, hein, elle écrivait, elle publiait, etc. Elle était absolument à égalité avec Jean-Paul Sartre. Elle, lui, visiblement, un homme féministe, quoi. Même si lui travaillait sur les femmes, l'intéressait pas beaucoup. Mais il disait à Simone de Beauvoir, bah, vous, peut-être, vous pourriez peut-être travailler sur les femmes. Évidemment, il la soutenait beaucoup. Et les temps modernes, Simone de Beauvoir était aussi importante que Sartre au temps moderne. Donc, elle était un beau modèle de femme. Voilà. Un modèle de femme pour ma génération, tout à fait novatrice. Alors, faut pas croire que Simone de Beauvoir a été, que ça a été un chemin tranquille. Parce que le deuxième sexe, il y a eu beaucoup de critiques. Il y a eu des critiques, j'allais dire, de bourgeoises, enfin, des gens qui trouvaient qu'elle était pas, qu'elle était beaucoup trop, qu'elle parlait de sexualité, que c'est pas possible à cette époque-là. L'Église catholique, hein. Simone de Beauvoir, le divorce, l'avortement, tout ça, c'était pour elle des choses absolument normales. Comment voulez-vous que l'Église catholique approuve ? Et le Parti communiste ? Le Parti communiste n'était pas non plus fanat. Pourquoi ? Parce que Simone de Beauvoir parlait beaucoup de contraception. Pour elle, la contraception était, au fond, il valait mieux employer la contraception que l'avortement. L'avortement, si on est obligé, bien sûr. Enfin, c'est quand même pas drôle. Donc, la contraception, si on veut pas d'enfant, on n'a pas d'enfant. Voilà. Hein. Et ça, le Parti communiste n'était pas du tout d'accord avec ça. Pas du tout. Le Parti communiste est contre Malthus. Malthus et Marx, autrefois, au XIXe siècle, se sont absolument affrontés. Parce que pour Marx, il faut que les prolétaires aient le plus d'enfants possible pour faire la révolution. Et par conséquent, la question des femmes, on se la pose pas tellement. Voilà, alors tout ça, ce sont un petit peu les raisons, le chemin, si vous voulez, que j'ai suivi vers le féminisme. À partir des années 70, alors il y a le mouvement de libération des femmes, et là, je suis dans le coup, je suis à Jussieu, Paris 7, Jussieu, nouvelle université, très dynamique, très féministe. J'ai rencontré par exemple Françoise Bache, qui est décédée il y a quelques mois maintenant, et qui était une femme absolument sur la même longueur d'onde que moi. Hein. Toutes les deux, nous avons fondé un groupe d'études féministes qui a été quelque chose d'important, si on peut dire, à Jussieu. Et là, véritablement, alors, avec le féminisme des années 70, les luttes pour le droit à l'avortement, Gisèle Halimi, le procès de Bobigny, après ça, le procès d'Aix-Marseille en 78 contre le viol. Alors là, je suis tout à fait dans de tout ça.
En dehors de Simone de Beauvoir, quelles féministes vous ont le plus marqué?
Il y a des féministes, des femmes féministes qui ne portent pas le nom de féministes, puisque, peut-être faut-il le rappeler, le mot féminisme et féministe, ça date de la fin du 19e siècle, pas avant. Mais il y a des femmes que nous pouvons considérer comme féministes. Moi, j'aime beaucoup George Sand, par exemple, qui m'intéresse beaucoup parce que, comme elle a énormément écrit, laissé une autobiographie, une énorme littérature, pour moi, historienne, c'est une source considérable. Et je pense qu'elle a été pionnière dans beaucoup de domaines. Hein. L'indépendance familiale, sexuelle, voyageuse, écrivaine, évidemment. Femme engagée politiquement pour la République. À cette époque-là, c'était la République qui était la chose qu'il fallait atteindre. Voilà un très bel exemple. Mais dès qu'on fait de l'histoire, on a affaire à des femmes féministes. Par exemple, au début, fin 19e, début 20e, il y a un mouvement féministe en France qui est très actif, vraiment passionnant. Une femme comme Hubertine Auclert. Hein. Hubertine Auclert est une femme qui s'est beaucoup battue pour le droit de vote et qui avait lancé un journal qui s'appelait La Citoyenne. Et par le mot la citoyenne, elle voulait justement dire que, bon, bah, est-ce qu'il y avait que des citoyens dans la République? Pourquoi est-ce que les femmes votaient pas? Donc elle se battait beaucoup pour ça, et elle a fait beaucoup de choses. C'était une femme extrêmement intéressante. On pourrait en citer une autre, Madeleine Pelletier. Madeleine Pelletier a été une des premières femmes médecins. Elle était interne en psychiatrie. Elle a été vraiment une des pionnières dans le domaine de la psychiatrie. Et dès avant 1914, elle a publié un livre qui s'appelle « Le droit à l'avortement ». À une époque où c'était complètement impensable. Et où il y avait même, évidemment, des lois contre. Elle a d'ailleurs été par la suite plus ou moins traduite en justice pour ça, et elle a terminé sa vie dans un asile psychiatrique. Donc c'est une femme absolument formidable, très remarquable. Elle était sans doute lesbienne, mais je dis pourquoi je dis sans doute, parce que il semble qu'elle n'ait jamais franchi le pas, parce que c'était difficile quand même, c'était compliqué à l'époque, mais elle vivait plus ou moins avec une femme, et elle s'habillait en homme. Pourquoi est-ce qu'elle s'habillait en homme? Parce que justement elle voulait dire que elle ne voulait pas du sort des femmes, elle ne voulait pas de la condition des femmes. Et en s'habillant en homme, elle s'affirmait comme pouvant faire ce que les hommes faisaient. Voilà, des très beaux exemples de femmes féministes. Alors si on veut venir plus proche de nous, eh bien, et Simone de Beauvoir, on en a parlé, Gisèle Halimi, pour moi, a été très très importante. Alors là, Gisèle Halimi, c'est ma contemporaine, tout à fait. Et je l'ai connue, j'ai beaucoup sympathisé avec elle, et c'est véritablement quelqu'un de remarquable. Nous lui devons beaucoup, je crois.
En milieu patriarcal, comment est-ce qu'on peut articuler les combats féministes d'aujourd'hui avec la justice sociale sans criminaliser et judiciariser toujours plus les hommes ou les déviances masculines?
Alors, judiciariser les hommes, c'est moins la question de la justice sociale que des violences sexuelles. C'est surtout ça qui fait que les hommes sont judiciarisés. Pendant longtemps, les femmes ne se sont pas plaintes, parce que porter plainte pour des coups, encore plus pour la question du viol, c'était très difficile. D'une part parce qu'on n'écoute pas les femmes, elles viennent dans un commissariat, il n'y a que des hommes qui sont tout prêts à se moquer d'elles et à dire « mais madame, mais votre mari, il faut lui obéir, il est très gentil », enfin des choses de ce genre. Donc c'est ça la difficulté pour les femmes de porter plainte. Et par ailleurs, si elles le font, bien entendu, elles portent plainte contre des hommes. Leur mari ou un patron, c'est encore plus compliqué, et c'est difficile pour elles, vraiment, vraiment difficile. Donc c'est véritablement une conquête du mouvement de libération des femmes de reconnaître les violences faites aux femmes et de soutenir les femmes qui portent plainte. Hein, des avocats, des médecins, des femmes doctoresses, médecine, comme on voudra, et puis les femmes elles-mêmes qui soutiennent tout un reste. Et ce qui est très intéressant à ce propos, c'est de voir les témoignages de femmes, hein, de plus en plus nombreux. Et là, c'est même dans les toutes dernières années, MeToo. Hein, MeToo qui fait que non seulement les femmes prennent la parole avec les réseaux sociaux, mais qu'on écoute les femmes. Parce que c'est bien joli de parler, mais si personne ne vous écoute, ça tombe. Or, ce qui est intéressant dans les dernières années, les années que nous vivons aujourd'hui, c'est qu'il y a une écoute. Maintenant, il y a une écoute. Et il y a une écoute où on fait attention, on en parle à la télévision, les hommes contre lesquels on se plaint, bah on commence à tout de même en parler, y compris Gérard Depardieu, des gens qui étaient au pouvoir, hein, et sur lesquels on n'osait rien dire. Bah maintenant, on ose quand même parler. Et la société se divise, bien entendu, mais quand même, il y a une réprobation qui existe contre ces hommes qui usent de leur pouvoir. La question de la judiciarisation des hommes, elle se pose forcément. À partir du moment où il y a des plaintes, bah, si on veut que ça aboutisse, Il faut bien que les hommes soient judiciarisés. Il ne s'agit pas de mettre tous les hommes en prison. Ils sont déjà beaucoup. Hein. Il ne faut pas oublier que dans les prisons, il y a 96% d'hommes et 4% de femmes. Alors, on ne va pas aller en mettre davantage, il y en a déjà beaucoup. Le problème, c'est que si on porte plainte, bah oui, il faudra bien qu'il y ait des peines. On peut très bien porter plainte, vouloir la justice pour les femmes et se poser la question des prisons. Ce n'est pas du tout antagoniste. Les prisons sont des lieux surpeuplés. À l'heure actuelle, il y a beaucoup trop de gens en prison, si bien que leur condition est abominable, hein, et que ça ne peut pas les aider à se réinsérer dans la société. Par conséquent, la critique de la prison peut très bien aller avec une plainte aussi, qui va évidemment emmener des gens en prison, ça c'est sûr.
Que pensez-vous de l'évolution des revendications féministes d'aujourd'hui ?
Ce que je pense des revendications féministes d'aujourd'hui, je trouve les jeunes féministes très bien. Hein. Je les trouve actives, j'admire ce qu'elles font. Elles vont plus loin que nous. Enfin, quand je dis nous, je veux dire ma génération, par exemple. Dans ma génération, bah, on était quand même assez réservés, notamment sur le problème sexuel. Il y a des mots qu'on n'employait pas, on n'osait pas, par exemple, la question des règles. Bah, quand on avait ces règles, on gérait ça toute seule, et puis voilà, et puis c'est tout. On n'en parlait pas, on n'aurait même pas voulu en parler la plupart du temps. Bah, les jeunes femmes d'aujourd'hui, elles en parlent. Elles disent, bah oui, mais c'est bien joli de prendre ces règles en compte. Bon, si on est fatigué tout de même, on peut avoir des problèmes. Il est juste qu'on ait peut-être moins de travail, etc., etc. Donc, elles osent dire des choses que, dans ma génération, on ne disait pas. Elles osent avoir des revendications que nous n'avions pas. Et du coup, bah, elles ont des groupes de femmes, hein, qui vont plus loin. Par ailleurs, elles manifestent beaucoup. Et puis, elles ont aussi un sens international que nous avions quand même. Mais nous l'avions surtout avec les États-Unis. Pourquoi ? Parce que les Américaines étaient en avance sur nous, du point de vue théorique. Elles avaient fondé des Women's Studies. Nous, on a fait des groupes de femmes aussi, etc., etc. Mais quand même, elles y allaient beaucoup. Voilà. Mais maintenant, il est beaucoup plus question des femmes afghanes, des femmes iraniennes, hein, dont la condition est épouvantable. J'observe que les jeunes féministes en parlent, le disent, sont solidaires avec les femmes iraniennes autant que nous pouvons le faire, parce qu'évidemment, notre action est limitée dans ce domaine-là. Mais au moins, peut-on et doit-on, évidemment, en parler. Donc, je suis solidaire des jeunes féministes d'aujourd'hui. Alors, on dit, même des amis à moi, enfin, disent, oui, mais elles exagèrent, il y a des choses que... Peut-être, de, par exemple, quand, comment se rappelle-t-elle, ah, c'est pas Coffin, si, elle dit qu'elle est vraiment contre les hommes, enfin, elle développe une pensée très contre les hommes. Bon, bah, dans ma génération, non. Hein, dans ma génération, on a, alors, parfaitement admis toutes les formes de sexualité. Je pourrais dire que ma génération s'est même beaucoup battue pour ça. Hétérosexualité, homosexualité, évidemment. Hein. Homosexualité pour les hommes comme pour les femmes. Aucun problème dans ce domaine pour faire admettre que c'est normal, que chacun choisit sa sexualité. Mais pas d'hostilité contre les hommes. Critique des hommes, oui, parce que la domination masculine, c'est quelque chose qui existe. Mais pas d'hostilité. Pas d'hostilité foncière. Donc, quelquefois, il y a peut-être, à l'heure actuelle, parce qu'il y a une conscience très vive de la domination masculine, il peut y avoir aussi une certaine hostilité contre les hommes, parce que franchement, ils ont tous les pouvoirs, ils ont le pouvoir, ils nous embêtent, voilà. Peut-être ma génération était-elle un peu plus modérée sur ce plan, c'est tout à fait possible.
Est-ce que vous pensez qu'il y a un rapport entre les résurgences masculinistes d'aujourd'hui ?
Les résurgences masculinistes d'aujourd'hui sont inquiétantes. Et elles existent un peu en France, je le crois, bien que je sois, oui, je pense, oui, mais encore plus aux États-Unis. Hein, aux États-Unis, alors dans la clientèle Trump, hélas, car nous risquons, j'espère que non, mais enfin, bon, il y a un risque, que Trump revienne au pouvoir, et là, parmi les républicains, il y a des masculinistes absolument déclarés, Trump lui-même. Par conséquent, oui, il faut jamais perdre de vue qu'un combat n'est jamais gagné, que l'histoire n'est pas linéaire, c'est-à-dire on ne va pas vers une accumulation qui conduirait à un progrès définitif. Il y a des allées et retours. Il y a ce que les Américaines, justement, appellent le backlash, c'est-à-dire le retour en arrière. Et ça, ce sont des choses dont les femmes sont conscientes, mais il faut l'être. Il faut l'être. Parce qu'on peut s'attendre à tout. On peut s'attendre à tout. Même si, par exemple, Marine Le Pen met de l'eau dans son vin, beaucoup, parce qu'elle sait que elle sait, avant que le droit à l'avortement, il faut quand même dire ça, hein, le droit à l'avortement est inscrit dans la Constitution. C'est formidable. Et ça, dans les années 70, il y a 50 ans, on ne l'aurait pas imaginé. Hein. Donc c'est une belle victoire pour les femmes. Même si, puisqu'on en parle, j'aurais pour ma part préféré que ce soit un droit plutôt qu'une liberté. Parce que si c'est un droit, il faut que le droit existe. Une liberté, il y a moins d'exigences. Donc ça, je le regrette. Mais bon, prenons quand même cette avancée de l'inscription de l'IVG dans la Constitution. C'est quand même une date historique formidable. Alors pour ces raisons-là, je pense que l'extrême droite incarnée par Marine Le Pen et quelques autres n'osera probablement pas revenir là-dessus, parce que l'opinion française est favorable à ça. Hein. D'ailleurs, c'est pas pour rien, si Macron l'a fait, c'est aussi qu'il savait que l'opinion était favorable. Je ne crois pas, mais j'en sais rien, hein, que le danger soit de ce côté-là. Mais malgré tout, dans les forces d'extrême droite, il y a des forces très conservatrices. Et ça donnerait des atouts aux médecins, par exemple, qui ne veulent pas faire une IVG, etc. Donc, le masculinisme dont vous parliez, il faut s'en méfier partout, y compris en France, et y compris, surtout, dans l'extrême droite. Parce que l'extrême droite, il y a quand même un côté viril, virilisme, hein, voilà. Et ils n'aiment pas trop le féminisme tout de même.
Depuis qu'ils vous ont mis dedans, on n'a pas vu le temps passer. 20 ans déjà, mon fils est né, et ma fille, 18 printemps. De ces années, qu'avons-nous fait? Que pouvons-nous bien vous en dire? Nous avons vu des murs tomber, nous en avons laissé construire. Depuis qu'ils vous ont enfermé, nous n'avons pas gagné grand-chose pour l'avenir des justes causes qui toujours nous ont rassemblés. Nous étions si sûrs de la voir à l'horizon comme un soleil. La révolution, notre espoir, que rien ne serait plus pareil. Depuis qu'ils vous gardent reclus, ils ont voulu qu'on vous oublie, qu'on vous isole ou qu'on vous tue par le silence ou la folie. Et ceux qui hurlent avec les loups vous ont condamné à leur tour, et leur lame sur votre cou, c'est la mort lente au fil des jours. depuis qu'on vous a mis au banc de ce qui fait aimer la vie, jusqu'à vous enterrer vivant pour mieux jouir de votre agonie. Certains vous clouent au pilori, les belles âmes, les repentis qui jadis criaient haut et fort, le pouvoir est au bout du fusil. Régis, Joël et Nathalie, Jean-Marc et Georges, d'autres aussi, humiliés, battus ou malades, vous avez tenu camarades. Depuis 20 ans, ces lourdes chaînes n'auront pas eu raison de vous, et bientôt, au bout de vos peines, toujours rebelles, toujours debout, vous sortirez de leur mouroir, c'est votre droit. Et notre espoir.
Vous venez d'écouter la très longue interview donc de Michel Perrault, interviewé pour le magazine et par le magazine 50-50. Magazine de l'égalité homme-femme-femme-homme. Et pour illustrer en pause musicale, eh bien, vous avez pu entendre « Demande aux femmes » de Francesca Solville. Et « Toujours rebelle, toujours debout » de Dominique Grange, qui s'adresse aux ouvrières, qui s'adresse aux ouvriers, qui s'adresse aux femmes, « Toujours rebelle, toujours debout ». Et nous allons clore ce chapitre, Michel Perrault, par un dernier livre. Je dis dernier livre parce qu'il a été publié aux éditions Grasset en 2023. Michel Perrault avec Eduardo Castillo, Le temps des féminismes, l'histoire des femmes par une grande pionnière. Donc Michel Perrault, vous la connaissez et vous venez de l'entendre, et elle a beaucoup parlé de tout ce qu'elle avait pu vivre, de ses rencontres, de ce qu'elle a fait en qualité d'historienne et en qualité de femme et en qualité de féministe. Eduardo Castillo, lui, c'est un conférencier, concepteur de débats littéraires. Il est journaliste, écrivain. Il a dirigé l'ouvrage Chili, 11 septembre 1973, La démocratie assassinée. C'était en aux éditions Le Serpent à plumes en 2023, et il a publié sous sa direction en mars 2013 aux éditions Philippe Ray l'ouvrage collectif Pourquoi Camus. Alors pourquoi Michel Perrault a-t-elle accepté de partager ce livre avec Eduardo Castillo, Le temps des féminismes? Eh bien, je vous en dis quelques mots. L'avant-propos. Refuse-t-on d'accéder à la demande d'un ancien étudiant, surtout quand on a partagé avec lui le Jussieu lumineux et fraternel des années 1980? Voilà comment, au printemps 2021, j'ai accepté la proposition d'Eduardo Castillo d'une série d'entretiens autour de l'histoire des femmes, dont il avait vécu les premiers pas, suivi les premiers enseignements, et du féminisme. Entre Eduardo et moi, le fil ne s'était jamais rompu. Invité comme auteur dans des débats dont il assurait l'animation, j'avais apprécié son intelligence, sa curiosité et son savoir-faire. Sa touchante fidélité aussi. Son estime, sûrement excessive. D'où mon accueil à l'idée de ce livre qui rencontrait le soutien des éditions Grasset où j'avais publié, il y a quelques années, « Mélancolie ouvrière ». Le premier de nos entretiens eut lieu en juin 2021, au charmant hôtel des Saint-Pères. Ils s'y poursuivirent durant l'été et l'automne 2021, période difficile, marquée par l'aggravation de la maladie de Jean-Claude, mon mari, et sa mort le 10 décembre, dans un sentiment de schizophrénie que j'ai souvent éprouvé dans cette période de ma vie. L'histoire des femmes, et surtout du féminisme, constitue l'axe majeur de ce livre. Constamment à l'affût des ouvrages nouvellement publiés, parfaitement informés des situations et des débats dont ils se font l'écho, Eduardo préparait soigneusement ses questions en fonction des thèmes qu'ils souhaitaient aborder, de l'agenda qu'ils comptaient suivre. Leur maintien eut sans doute donné une meilleure vue de nos échanges, son insistance m'obligeant à la précision et me conviant à l'approfondissement. Non sans répétition, lié à l'étirement temporel de notre conversation. Ce livre traduit le questionnement d'un homme résolument féministe qui interroge... Non. Ce livre traduit le questionnement d'un homme résolument féministe qui interroge l'évolution, voire la révolution des rapports entre les sexes dans la société contemporaine. Pendant 30 ans, le féminisme apparut comme en sommeil. C'était devenu un mot repoussoir, vieillot. Les grands combats avaient été gagnés. Celles qui s'obstinaient à revendiquer plus d'égalité apparaissaient comme des empêcheuses de tourner en rond, revêches et ennuyeuses. Enfin, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, des jeunes femmes dynamiques, enthousiastes, déterminées ont pris le relais, comprenant qu'un long chemin restait encore à faire, et on a senti, avec quelle joie, que le féminisme se réveillait. MeToo a été un événement considérable. Les analyses des concepts se sont affinées dans une production historique et littéraire vivace ces derniers temps. Des progrès ont été réalisés, dans la loi parfois plus que dans les mœurs, les représentations ou la pensée étant particulièrement rétives au changement. Ils l'ont été dans un périmètre restreint, occidental surtout. La domination masculine a reculé, avec des résurgences qui marquent la profondeur d'une résistance largement inconsciente. En 2021, sur un panneau publicitaire, on pouvait voir à gauche une femme, à droite un homme. À gauche, on lisait encore « Elle est à l'écoute ». Et à droite, « Il décide ». Tout cela constitue une tumultueuse et passionnante histoire inachevée, sans cesse recommencée et à l'issue incertaine. Ce dialogue, masqué par la linéarité du récit, a tenté d'en prendre la mesure. Et c'est donc... Michel Perrault avec Eduardo Castillo, Le temps des féminismes, l'histoire des femmes, par une grande pionnière. Et maintenant, avant de passer à un autre ouvrage, à une autre autrice, eh bien, une pause musicale. C'était la musique du film « Beaucoup de bruit pour rien », film inspiré d'une pièce écrite par William Shakespeare ou par Mary Sidney Herbert, comtesse de Pembroke. Vous en saurez peut-être plus après ce qui va suivre, et surtout après avoir acheté le livre dont il va être question maintenant. Effectivement, pour cette seconde partie, eh bien, nous allons parler du livre de Aurore Evin. Aurore Evin, nous l'avons reçue plusieurs fois. Elle est autrice, comédienne, metteuse en scène et historienne de théâtre. Elle est directrice artistique de la compagnie La Subversive et artiste associée du Théâtre des Ilets à Montluçon. La compagnie La Subversive est membre du réseau Édifier notre matrimoine, car il faut savoir qu'Aurore Evin est à l'initiative des journées du matrimoine. Voici ce qu'on dit de sa compagnie La Subversive. Les créations théâtrales de La Subversive ressuscitent le matrimoine et la scène underground des autrices de la littérature classique. Alors en 2022 et 2023, Aurore Evin obtient une bourse de la région Île-de-France pour une résidence d'écriture à la librairie Parole de Saint-Mandé afin d'adapter sous forme d'essai auto-fictionnel Mary Sidney alias Shakespeare, livre qui est sorti le 16 février 2024. Ce qui veut dire que quand nous avons interviewé Aurore Evin le 13 février 2024, elle était d'ailleurs dans les studios de Radio Libertaire et dans l'émission Remue Ménage Féministe, le livre n'était pas encore sorti. Alors, de quoi est-il question ? L'œuvre de Shakespeare a-t-elle été écrite par une femme ? S'appuyant sur des recherches de l'américaine Robin P. Williams, c'est la question à laquelle Aurore Evin répond dans un essai édité par la maison d'édition Talent Haut, Mary Sidney alias Shakespeare. L'œuvre de Shakespeare a-t-elle été écrite par une femme ? Une enquête intrigante, aussi documentée que captivante, qui vise à restituer la plus grande œuvre théâtrale à sa véritable autrice, Mary Sidney Herbert, comtesse de Pembroke. Et ce livre, donc cet essai, est sorti aux éditions Talent Haut. Et les éditions Talent Haut, ce sont des livres qui bousculent les idées reçues. Et le livre dont il est question est le premier livre d'une nouvelle collection qui a vu le jour en 2023 chez Talent Haut. La collection s'appelle Alias, des essais d'un autre genre. Dans les textes de cette collection, ce sont des liens entre littérature et féminisme qui seront explorés. Voici ce que dit Aurore Evin. Artiste féministe, j'ai passé 30 ans de ma vie à fouiller les fonds de bibliothèque afin de ressusciter les autrices de théâtre, les éditer, les remettre en scène. Désormais, on veut bien concéder que des autrices de théâtre ont existé avant Marguerite Duras, mais voilà, elles ont toutes disparu des dictionnaires, telles les femelles dinosaures, parce que aucune d'entre elles ne fut Shakespeare. Et puis, j'ai croisé le chemin de Robin P. Williams, parcouru les pages de son essai attribuant les œuvres shakespeariennes à Mary Sidney, comtesse de Pembroke, et le monde n'a plus tourné comme avant. Alors ce livre, d'abord, il est très beau, une très jolie couverture, rouge, avec deux visages. Il y a le visage, le visage de William Shakespeare, c'est rouge, on voit pas trop la boucle d'oreille, il semblerait que ce soit son signe distinctif. Et puis, derrière ce visage qui s'ouvre comme un rideau de théâtre, eh bien, c'est le portrait de Mary Sidney Herbert, comtesse de Pembroke. Alors, je vais vous lire la quatrième de couverture. L'œuvre de Shakespeare a-t-elle été écrite par une femme ? Telle est la question à laquelle Aurore Evin répond dans une enquête aussi documentée que captivante. Ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. D'indices troublants en recoupement probant, elle démontre que s'il est assez improbable que William Shakespeare ait écrit la moindre ligne des 36 pièces qui lui sont attribuées, il est en revanche tout à fait vraisemblable que Mary Sidney, comtesse de Pembroke, en soit la véritable autrice. Et je vais vous lire Barbara Capel du New York Times, voici ce qu'elle dit, c'est sur la quatrième de couverture. En entrant dans Mary Sidney, alias Shakespeare de Rory Vin, je ne m'attendais pas à grand-chose de plus qu'un exercice intellectuel agréablement excentrique. Pourtant, Rory Vin a présenté un tel éventail de preuves circonstancielles tout en balayant les potentielles réfutations que j'ai commencé à remettre en question mes propres croyances. Alors, dans ce livre, vous allez faire connaissance avec une fine équipe, comme dit Aurore Evin. Vous allez faire la connaissance de Charlotte, qui est une amie d'enfance de la narratrice et qui porte une admiration sans limite à William Shakespeare. Gaston, qui connaît l'œuvre de Shakespeare. Hicham, un doctorant qui suit un double cursus en études anglophones, littérature comparée, et qui a pris comme sujet de thèse « To be or not to be » Shakespeare. Et la quatrième protagoniste, Aurore. Et le lieu, la librairie Shakespeare et compagnie Café. Alors, pour mieux comprendre, eh bien, je vais vous lire le prologue aux sources de l'enquête. Comment une personne sensée, chercheuse et professionnelle du théâtre, passionnée de littérature classique, en vient-elle à commettre un livre défendant l'idée surprenante et renversante, invraisemblable, saugrenue, farfelue, énorme, infondée, c'est sûr, qu'une femme est la véritable autrice des œuvres attribuées à Shakespeare? Comment en arrive-t-elle à torpiller, désinguer, pulvériser, carchériser le plus grand génie théâtral présumé que le monde ait produit pour, comble d'audace, mettre une femme à sa place? Goût de la provocation, envie de faire le buzz sur les réseaux sociaux, soif de vérité ou besoin existentiel de démonter toute la mécanique d'une vaste supercherie patriarcale qui a consisté à priver les femmes et les hommes de leur matrimoine? Je vous laisse le soin de répondre à cette question une fois cet ouvrage refermé. En prélude à cette enquête, je préfère exposer le voyage intellectuel et artistique qui me conduit à vous écrire depuis la bibliothèque toute poulardienne où je me trouve et qui ressemble à s'y méprendre à celle où déambulait il y a un siècle ma chère louve, Virginia Woolf. Une promenade dans ces rayonnages où trônent les livres de poussiéreux mais vénérés historiens la conduisit en 1929 à écrire un essai qui tient une place majeure dans l'histoire de la pensée féministe. A Room of One's Own, longtemps traduit par une chambre à soi. Mais room n'est pas bedroom, et cette façon de renvoyer les femmes dans leur chambre à coucher m'a toujours agacée. Marie d'Arieusec aussi, qui a retraduit en 2016 par un lieu à soi. Et, comble de joie, et inscrivit pour la première fois dans ses pages le mot « autrice ». Pour la lycéenne biberonnée au lagard des Michards que j'ai été, cette plongée wolfienne dans l'histoire des femmes et de la littérature fut un phare dans la nuit, la promesse de jours meilleurs. Perché en haut d'un escabeau, tenant d'une main mon livre fétiche bien décidé à vivre mon pèlerinage jusqu'au bout, je relis donc Virginia in situ, en m'arrêtant sur les pages que j'avais à l'époque soulignées, annotées et fluorées de toutes les couleurs. Chapitre 3, premier post-it. Demandez à l'historien qui enregistre non pas des opinions mais des faits de décrire les conditions dans lesquelles vivaient les femmes en Angleterre, disons sous le règne d'Élisabeth. Nous y voici. L'histoire de l'Angleterre par le professeur Trévelan. Comme Virginia Woolf avant nous, saisissons-nous du dernier volume de ce précis d'histoire longtemps réputé. Dans les faits, souligne le professeur, les femmes, elles étaient enfermées, battues et jetées contre les murs. En imagination, elle est de la plus haute importance. En pratique, elle est complètement insignifiante. Elle imprègne la poésie de part en part. Elle est complètement absente de l'histoire. Je continue. Je passe nerveusement. Trois post-it et manque de tomber de mon escabeau. Jeune femme, quels encouragements puis-je vous donner pour plonger dans le chantier de la vie? Vous êtes, à mon avis, détestablement ignorante. Vous n'avez jamais fait aucune découverte d'une quelconque importance. Virginia Woolf écrivait ça. Et Virginia ne connaissait donc pas Marie Curie, deux fois prix Nobel en 1903 et 1911? Vous n'avez jamais ébranlé un empire ou mené une armée de front, continue Virginia Woolf. Et Jeanne d'Arc? Les pièces de Shakespeare ne sont pas de vous, à scène. Virginia Woolf. C'est ce que nous allons voir, mais avec du temps sur les mains et un peu de lecture dans vos cerveaux, vous pourrez sûrement vous embarquer pour une autre étape de votre très longue, très laborieuse et très obscure carrière. Souffrons, mes sœurs, souffrons, enfantons dans la douleur. C'est comme ça qu'Aurore et Vin a commencé à se poser des questions par rapport à Shakespeare. Et puis, finalement, elle est tombée accidentellement sur un livre de la chercheuse américaine Robin P. Williams, qui elle-même a édité cet ouvrage. Et voilà les questions qui en ressortent. William serait marié ? Sur le coup, je trouve l'hypothèse osée et trop belle pour y croire. Je résiste, tente de garder la tête froide, ce serait vraiment too much. 2 ans plus tard, je craque et fais venir de Californie le fameux brûlot à l'élégante couverture violette et au titre énigmatique. Sweet Swan of Heaven. Did a woman write Shakespeare? Il arrive 1 mois plus tard, cet ouvrage, et repose quelque temps dans ma bibliothèque, le temps de l'apprivoiser. En prévision d'un Paris-Montluçon en train, généralement long et pénible, je me décide à l'emporter pour passer le temps. Et à partir de là, effectivement, il y a, comme habituellement, un problème avec le train qui s'arrête, ce qui donne tout son temps à Aurore et Vin de lire ce qu'elle a fait venir, à savoir le texte de, excusez-moi, Robin P. Williams. Et puis, finalement, elle décide, avec la directrice de théâtre à Montluçon, elles décident toutes les deux de faire une conférence-spectacle de ses écrits. Et ensuite viendra le passage au livre. Et le passage au livre, c'est celui que j'ai pour le moment dans les mains. Eh bien, nous allons écouter Aurore et Vin. Le 13 février 2024. Au programme de l'émission de ce mardi, une question qui va vous interpeller, j'imagine. L'œuvre de Shakespeare a-t-elle été écrite par une femme? S'appuyant sur les recherches de l'américaine Robin P. Williams, c'est la question à laquelle Aurore et Vin répond dans un essai édité par la maison d'édition Talent Haut. Mary Sidney, alias Shakespeare. L'œuvre de Shakespeare a-t-elle été écrite par une femme? Et ce livre, c'est un essai, sort en librairie le 16 février, c'est-à-dire vendredi prochain. C'est une enquête intrigante, aussi documentée que captivante, qui vise à restituer la plus grande œuvre théâtrale à sa véritable autrice, Mary Sidney Herbert, comtesse de Pembroke. Avant, quelques mots de l'autrice, Aurore Evin, que vous connaissez, puisqu'elle est déjà intervenue dans notre émission Remue Ménage Féministe. Voici ce qu'elle dit. Artiste féministe, j'ai passé 30 ans de ma vie à fouiller les fonds de bibliothèque afin de m'avant.
Sign.
M'avant.
Sign.
Seabirds ever. One foot in sea. And one on shore, to one thing, constant never, then sigh not so, but let them go, and be you blithe and bonny, converting all your sounds of woe. Into hay, nonny, nonny.
Mm-hmm.
Alors sans plus attendre, nous vous proposons d'écouter en préambule un extrait d'une lecture faite par Aurore Evin le 23 octobre 2023 et je crois que c'était dans la maison d'édition Talent Haut.
Alors, entre nous, hein, comment une personne apparemment sensée, chercheuse et professionnelle du théâtre, passionnée de littérature classique, en vient-elle à commettre un livre défendant l'idée, pour le moins surprenante, renversante, invraisemblable, saugrenue, farfelue, infondée, invraisemblable, énorme, c'est sûr, qu'une femme est la véritable autrice des œuvres attribuées à William Shakespeare? Comment en arrive-t-elle à torpiller, désinguer, pulvériser, carchériser le plus grand génie littéraire présumé que le monde ait produit, hein, le king du théâtre, pour, comble d'audace, mettre une femme à sa place? Goût de la provocation, envie de faire le buzz sur les réseaux sociaux, énième théorie du complot, soif de vérité, ou nécessité de démonter toute la mécanique d'une vaste supercherie patriarcale qui a consisté à priver les femmes et les hommes de leur matrimoine. Car sous le nom de Shakespeare, hein, s'affiche depuis des siècles un visage, jamais authentifié, mais reproduit sous toutes les coutures, cheveux mi-longs, le haut du crâne dégarni, parfois une boucle d'oreille au lobe gauche, hein, ce qui lui donne un air de rocker des années 70. Bref, le portrait d'un homme dont on devine qu'il se taille tous les jours le bouc devant son miroir en pensant à sa prochaine pièce. Et donc, William serait mari. Alors, je tiens à rassurer, hein, les plus sceptiques d'entre vous qui pourraient, dès ses premières lignes, refermer le livre avec dédain, agacement, voire sarcasme. Mon but n'est pas de prouver que William Marie-Siney a écrit les œuvres attribuées à Shakespeare. J'espère seulement présenter suffisamment de faits sourcés, de preuves documentées, saupoudrées de coïncidences surprenantes et assaisonnées de démonstrations troublantes pour éveiller votre curiosité et vous convaincre que si cette hypothèse n'est pas totalement vérifiable en l'état des recherches, elle est du moins tout à fait vraisemblable. Et j'espère surtout à l'avenir titiller votre envie de ne plus prendre des vessies pour des lanternes. Alors pour ce faire, eh bien, nous allons suivre les traces de ma Miss Marple préférée, alias Robin P. Williams, une chercheuse américaine dont les recherches ont servi de base à cette enquête. Dans un premier temps, je vais exposer ce que les pièces nous révèlent de la personne qui les a écrites et pourquoi l'identité littéraire de William Shakespeare s'avère un véritable casse-tête. Et ces préliminaires nous conduiront alors à creuser la piste de Mary Sidney Herbert, comtesse de Pembroke, et la dernière page de ce livre tourné, eh bien, nous nous poserons la question, cette femme pourrait-elle être l'autrice des pièces et sonnets attribués à l'homme nommé William Shakespeare?
C'était Aurore Evin. Aurore Evin qui ose mettre le doute, mais un doute très très fort, sur le fait que les œuvres de Shakespeare sont à attribuer à une femme. Et nous terminons avec cette musique pratique, presque comme dans un western. Et c'était les Shakespeare Sisters qui interprétaient All the Queen's Horses, tous les chevaux de la reine. Voilà, c'était donc un extrait, très court extrait de ce livre, de cet essai, Mary Sidney alias Shakespeare. L'œuvre de Shakespeare a-t-elle été écrite par une femme, aux éditions Talent Haut, dans la collection Alias. Et comme vous avez pu vous en rendre compte très très probablement, il est très difficile de prendre des extraits ou de résumer ce livre. Une enquête aussi documentée que captivante, d'indices troublants en recoupement probant, elle démontre que s'il est assez improbable que William Shakespeare ait écrit la moindre ligne des 36 pièces qui lui sont attribuées, il est en revanche tout à fait vraisemblable que Mary Sidney, comtesse de Pembroke, en soit la véritable autrice. Et je vous engage vraiment, vraiment, vraiment à aller soit acheter ce livre, soit le prendre dans une bibliothèque, parce que quand vous allez commencer à lire les premières pages, vous irez jusqu'au bout, vous aurez du mal à vous arrêter. C'est effectivement captivant. Il faut aussi s'inscrire dans tous les personnages, s'inscrire dans toute l'organisation et dans tout le propos qui est déroulé par ce livre. Et en même temps, on prend beaucoup de plaisir à le lire parce que c'est beaucoup, beaucoup d'humour. Aurore Evin a énormément d'humour et je ne résiste pas à l'envie de vous lire l'épilogue. Verdict. Au terme de cette enquête, au cours de laquelle nous nous sommes repus de nourriture terrestre et intellectuelle, je vous laisse à vos conclusions, vos doutes ou vos convictions. Peut-être restez-vous sur votre faim et requérrez-vous l'acquittement, voire le non-lieu pour la suspecte, faute de preuves pour établir sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable, à moins que vous ne reteniez une partie des charges octoriales pesant sur ses épaules et récusiez l'autre. Souhaitez-vous un délibéré pour prendre un temps de réflexion supplémentaire ? Ou bien au contraire, vous apprêtez-vous à déclarer, sans l'ombre d'un doute, Mary Sidney coupable par contumace d'avoir commis l'une des plus géniales œuvres littéraires de l'époque moderne, et réclamerez-vous sa réhabilitation immédiate. Mary Sidney. Vous voyez, Aurore Evin, elle s'appuie sur les faits, rien que les faits, d'ailleurs tout au long du livre, on entend ça. Les faits, rien que les faits. Venons-en aux faits. C'est une enquête absolument passionnante. Et cet essai, Mary Sidney, alias Shakespeare, eh bien, ça a été aussi, au début, un spectacle qui se poursuit encore. Je pense qu'on peut encore le voir, ce spectacle, et qui s'appelle Mary Sidney, alias Shakespeare. Essayez de regarder, vous allez sur le site de la compagnie La Subversive et vous essayez de voir d'abord toutes les œuvres d'Aurore Evin, tout ce qu'elle met en scène, tout ce qu'elle a mis en scène, et puis aussi, si par hasard, quelque part, ne se joue pas Mary Sidney alias Shakespeare. Et nous allons terminer l'émission de ce mardi 16 juillet 2024 et nous sommes toujours sur Radio Libertaire 89.4, émission Remue Ménage Féministe pour une dizaine de minutes. Nous allons terminer avec un livre, Annabelle Crémeur-Lecointre, qui a fait paraître aux éditions La Martinière, Jeunesse, un livre qui s'intitule « Femmes de science à la rencontre de 14 chercheuses d'hier et d'aujourd'hui ». Résumé. L'histoire des sciences est remplie de noms masculins. Pourtant, de tout temps, des femmes ont brillé dans la diffusion et la construction des connaissances scientifiques. Alors, pourquoi sont-elles restées si longtemps dans l'ombre? Dans les pages de ce livre, « Femmes de science à la rencontre de 14 chercheuses d'hier et d'aujourd'hui », vous pourrez rencontrer Émilie Duchâtelet, Irène Joliot-Curie, Rosaline Franklin, Diane Fosset et d'autres grandes femmes de science. Et vous revivrez avec elles leurs découvertes, mais aussi les luttes qu'elles ont souvent dû mener pour s'affranchir des préjugés de leur époque et conquérir leurs droits. Ces 14 entretiens sont passionnants. Ces femmes du passé et du présent qui rappellent que la science s'écrit aussi au féminin et que l'égalité n'est jamais définitivement acquise. Une musique pour clore avant de rappeler les livres et les ouvrages dont je vous ai parlé.
Soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille, s'il vous plaît, faites-vous léger. Moi je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore. À l'heure de votre mort, je vous ai porté des fleurs, vous ai morcelé mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie, c'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vagues ou de ruisseaux. C'est mon cœur ou bien le leur. Et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Il vous faut être comme le ruisseau, comme l'eau claire de l'étang qui reflète et qui attend. S'il vous plaît, regardez-moi, je suis vrai, je vous prie, ne m'inventez pas. Vous l'avez tant fait déjà. Vous m'avez aimée servante, m'avez voulu ignorante, forte. Vous me combattiez, faible, vous me méprisiez. Vous m'avez aimée putain et couverte de satin. Vous m'avez faite statue et toujours je me suis tue. Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut. Vous me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus. Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux. Me voilà comme une église, toute la honte dessous. Ce n'est que moi. C'est elle ou moi, celle qui aime ou n'aime pas, celle qui règne ou qui se bat, c'est Joséphine ou la Dupont, fille de nacre ou de coton. C'est mon cœur ou bien le leur, celle qui attend sur le port, celle des monuments morts, celle qui danse et qui en meurt, fille bitume ou fille fleur, et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme...
Anne Sylvestre, une sorcière comme les autres. L'émission Remue-Ménage se termine pour ce mardi 16 juillet et c'est la dernière émission avant les vacances. Nous nous retrouverons en septembre. Et au cours de cette émission, eh bien, vous avez pu découvrir peut-être ce petit livre au contenu bizarre, surprenant, projet d'une loi portant défense d'apprendre à lire aux femmes. Michel Perrault était concerné par ce livre. Vous avez pu aussi écouter une interview de Michel Perrault. Je vous ai aussi parlé de son livre sur les féminismes. J'ai du mal, je ne retrouve plus toutes mes feuilles. Michel Perrault avec Eduardo Castillo, Le temps des féministes. L'histoire des femmes par une grande pionnière. Aurore Evin pour son livre Mary Sidney alias Shakespeare, l'œuvre de Shakespeare a-t-elle été écrite par une femme, aux éditions Talent Haut. Et puis Annabelle Crémer-Lecointre pour son livre paru aux éditions La Martinière Jeunesse, femme de science, à la rencontre de 14 chercheuses d'hier et d'aujourd'hui. Et nous allons nous quitter avec Mathilde, guerrière de lumière.
C'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme
au revoir.
S'il vous plaît, s'il vous plaît, faites-vous léger. Moi je ne peux plus bouger.
Petit souci, mais c'est rétabli.
Je pense qu'à partir du moment où mon bonheur dépend d'un homme, je suis une esclave et je ne suis pas libre.
La nuit, on colle. Le jour, on casse du troll. Dans la vraie vie, sur les réseaux, on est prêt à risquer notre peau. Violeur, prends peur. On sait que c'est toi l'agresseur. Qu'est-ce que tu crois? Nous, on te voit. Nous, on te lâchera pas. Parce que nous, tu sais, on n'est pas des filles sages, pas plus que des frivolages. Nous, on est juste des meufs sûres, sûres d'avoir des droits. Au moins, je sais même que toi, tant qu'on nous les donnera pas. Nous, oui, on les arrachera à monsieur patriarcat. Celui des hommes qui dominent, et puis de la bite qui culmine. En haut de la pyramide, de ton sexisme assumé. De mecs aux privilégiés, qui croient pouvoir nous dompter. Sauf que tu sais, nous, on est des guerriers de lumière. Du mal en rut sur le pavé, dans les métros, pas de répit pour les salauds. Le jour, on marche, dégagez patriarche. Soyez pas surpris, c'est la fin du crédit. Le temps des femmes, c'est aujourd'hui. Parce que nous, mais nous, on est féministes, oui, féministes radicales. Après tout, c'est bien normal, on fait juste que se défendre du monstre ultra-libéral. Comment pas devenir misandre dans ce monde liberticide, dans ce monde féminicide qui flingue notre dignité à chaque occasion trouvée, qui croit pouvoir nous soumettre, qui croit pouvoir nous la mettre, qui croit pouvoir nous briser. Sauf que tu sais, nous, on est, nous, on est, nous, on est, nous, on est des guerriers de lumière, pas de guerre.
Sauf que tu sais, nous on est, nous on est des guerriers de lumière.